Bonsoir, la journée internationale des droits de la femme que le monde célèbre chaque 8 mars a officiellement été lancée en République démocratique du Congo pour cette année, ce mardi, dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya. Cette journée du 8 mars met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Au milieu national, le thème retenu cette année est l'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes. En optant pour ce thème, l'objectif de la RDC est de sensibiliser les femmes à l'action climatique pour un meilleur environnement. Sur le plan international, le 8 mars cette année est placée sous le thème « L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable ». Comment évaluez-vous le processus de lutte pour la promotion des droits de la femme en République démocratique du Congo? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous accueillons Rhode Kabuku Mawanga, conseillère de la ministre nationale du Genre, Famille et Enfants. Rhode Kabuku, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Dona Madimba.
Mais aussi Isabelle Pendeza Bikai, bonsoir.
Bonsoir, messieurs les journalistes.
Vous êtes coordinatrice du collectif des associations féminines pour le développement. Et enfin, Léon Choukourou, chercheur et consultant en sociologie du genre. Léon Choukourou, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Dimaté.
Dona Madimba pour ce soir. À tous donc, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Et ce premier constat pour introduire nos débats de ce soir, la crise sécuritaire qui secoue l'Ituri depuis plus de 4 ans affecte principalement les femmes et les enfants. Près de 2 millions de personnes déplacées sont répertoriées, dont de nombreuses femmes qui depuis 2017 ont presque tout abandonné dans leur village pour se mettre à l'abri des exactions des groupes armés, notamment à Bunia. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes commémorée ce mardi, Radio Okapi est allée à la rencontre de ces femmes déplacées qui sont installées au site de Kigonze à Bunia, et c'est Jean-Claude Loki qui nous en parle.
Le site de Kigonze est situé dans le quartier Moudzipela et héberge plus de 14 000 personnes. Mave Fora a 22 ans. En 2018, elle a décidé avec son mari de quitter son village Largou pour fuir les attaques de la ministre Codeco. Mariée à un couturier, Mave a appris à coudre les habits, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de leurs 3 enfants. Elle ne réalise pas beaucoup de recettes à la fin de la journée, mais c'est suffisant, déclare-t-elle, pour prendre en charge ses 3 enfants.
Le peu de recettes que je réalise m'aide à acheter de la nourriture, varier mes aliments, mais aussi j'arrive à acheter des vêtements et des chaussures à mes enfants.
À quelques mètres d'elle, on retrouve Célestine Lové, la 50aine révolue. Elle déclare ne pas être concernée par la date du 8 mars, où en principe elle devrait, avec ses enfants, se réjouir à l'instar des autres femmes.
Je n'ai même pas le temps de penser au 8 mars. Nous sommes des personnes qui mangeons de la viande, tout ce que nous voulions à notre faim. On travaille la terre, on pouvait varier nos repas à notre choix. Je voudrais bien manger de la viande, du poisson frais. Où vais-je trouver ça? Je vais aller voler?
Jeanne Aki, qui est la gestionnaire de ce camp, salue cependant les sacrifices de ces femmes qui, grâce aux petites activités génératrices des revenus qu'elles exercent, rendent d'énormes services à la communauté. Toutes rêvent un jour de gagner leur village où elles espèrent reprendre une vie normale. Bounia, Jean-Claude Loki, Dilet, Radio Okapi.
Et puis, ce deuxième constat de ce soir qui irrite plus d'un, qu'avez-vous prévu pour moi à l'occasion du 8 mars? C'est une question qui risque d'être très à la une ce jour de 8 mars. L'épouse va chercher à obtenir quelque chose de la part de son mari, une fille de la part de son père et une copine auprès de son copain. Certains activistes de droits de femmes dénoncent ce comportement. Pour elles, les femmes devraient arrêter cette façon de voir le 8 mars en réfléchissant plutôt sur les avancées et les défis de la lutte pour leurs droits. Isabelle Pendeza, femme activiste, s'exprime au micro de Rosalie Zawadi.
Aujourd'hui, ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'il y a des femmes aujourd'hui et des jeunes filles qui commencent à demander aux hommes ou soit aux garçons, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous pendant la journée du 8 mars, on doit sortir, on doit faire ceci. Ce n'est pas mal, mais cela ne doit pas être dans le cadre de la célébration de la commémoration de la journée du 8 mars, parce que ça ne sert à rien qu'un homme te donne une pièce de pagne. Et puis, il te dit que non, j'étais soutenue dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres ou soit dans la promotion des droits de la femme. Non. Et moi, je pense qu'on n'a pas vraiment le temps de penser seulement aux pagnes ou soit aux fleurs. Non, c'est une journée de lutte. Et on doit aller ensemble pour la promotion des droits de la femme.
Rode Kakubu Mawanga, conseillère de la ministre nationale du genre, famille et enfants. Nous venons d'écouter là deux tableaux. Alors, selon vous, lequel de ces deux tableaux présentés comme illustration de notre sujet de ce soir illustre en 2022 la réalité de la journée du 8 mars?
Merci beaucoup, M. Donat, pour la parole accordée. Cette journée du 8 mars, c'est une journée qui n'est pas festive, hein. C'est une journée qui est commémorative, parce que nous sommes en train de commémorer les femmes qui ont milité, nos précurseurs qui ont milité avant nous, pour la promotion des droits des femmes, la participation politique des femmes, la participation des femmes aux instances de prise de décision. En principe, cette journée, comme l'a dit la consoeur qui vient de me précéder, c'est bien beau d'en faire la festivité, mais c'est plus une journée à double casquette. C'est une journée d'évaluation et une journée de perspective, c'est-à-dire évaluer la participation politique de la femme, la participation de la femme, non seulement politique, mais à toute instance des prises de décision, et puis préparer les éléments de plaidoyer pour maximiser, augmenter la participation des femmes aux instances des prises de décision. Donc, pour être bref, c'est une journée qui est plus dans l'évaluation de ce qui a été fait, dans ce qui reste à faire et comment s'y engager pour réaliser ce qui est devant nous. Donc, c'est plus une journée de réflexion et de plaidoyer.
Alors, aujourd'hui, 2022, près de 60 ans hein, depuis que cette journée a été scotchée comme ça, comme lance de fer de cette demande en faveur de la femme. Selon vous, en termes de bilan, où est-ce qu'on en est? Comment peut-on faire un bilan sans être long, compréhensible aujourd'hui?
Merci beaucoup, M. Benin, pour la question. D'abord, je vais commencer par le cadre normatif. Nous avons la loi numéro 15/013 du 1er août 2015, portant modalité d'application de droit de la femme et de la parité. Depuis l'ascension de notre pays à l'indépendance, ce qui est vrai, la République démocratique du Congo fournit beaucoup d'efforts pour offrir des opportunités légales aux hommes et aux femmes en vue de leur protection et sécurité. Donc, aujourd'hui, si on doit faire une évaluation, je peux d'emblée dire que c'est une évaluation qui tend vers la positivité. C'est-à-dire, plus les années passent, mieux nous sommes en train de voir la participation des femmes aux instances de prise de décision. Évaluons avec les gouvernements passés et les gouvernements de Wayor, les gouvernements présents de Wayor, vous allez vous rendre compte que la participation de la femme aux instances de prise de décision est en train d'accroître. Avant, on avait autant de pourcents, on avait 17%, 16%, aujourd'hui nous sommes à 27%, en temps vers 30%, et pourquoi pas arriver à une planète 50-50. Donc pour moi, je peux dire pour les ministères du genre, famille et enfants, la participation de la femme aux instances de prise de décision, les processus pour y arriver, nous sommes en train de tendre vers la positivité, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes qui occupent les postes de prise de décision, chose qui n'était pas les années passées.
Alors, aujourd'hui, faut-il encore continuer de présenter la journée du 8 mars comme à ses débuts? Je vous ai entendu déjà dire tout à l'heure que c'était pas plus de festivité, mais plutôt de combat et de commémoration. Ça, c'est déjà un premier point. Mais vous voyez comment parfois les clichés sont durs. C'est souvent le côté festif qui a tendance à l'emporter. Aujourd'hui, plusieurs années après, est-ce que la réflexion ne devrait pas se porter aujourd'hui beaucoup plus sur une espèce d'éducation à tous les plans et dans toutes les sphères du pays qui montrerait que l'important, c'est plutôt l'émulation intellectuelle, l'émulation des compétences, aussi bien pour l'homme que pour la femme, ce qui ferait que on ne serait pas, comme dans la situation d'aujourd'hui, c'est l'impression que ça donne, en train de vouloir, de manière mécanique, faire élever la femme et contrecarrer peut-être, chemin faisant, les plans ou les velléités d'autres hommes, ce qui fait que les hommes n'ont pas tendance à soutenir forcément les femmes d'emblée, et les demandes des femmes n'évolue pas à la vitesse qu'on aurait peut-être souhaité.
Bon, si je dois répondre à votre question, d'abord, c'est le plus grand problème, c'est la femme. La femme, parce que la femme est capable de beaucoup et la femme est capable de tout. La femme doit travailler un côté sur elle-même. Elle doit travailler le côté de son imagination. Elle doit mettre en avant-plan les compétences. Parce qu'aujourd'hui, si nous restons bornés sur le quota, ça ne fait pas avancer la femme. Nous voulons arriver à une certaine dimension où on met la personne qu'il faut à la place qu'il faut. On n'a pas besoin du sexe de la personne, mais on a besoin de ce que la personne est capable de faire. Si c'est une femme qui est capable de faire, bravo, on donne la place à la femme. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir encore une autre forme de discrimination lorsqu'on parle de quotas. Les quotas, on limite à 30%, c'est-à-dire s'il y a 50% de femmes compétentes, on ne prendra que 30%, ce qui n'est pas notre objectif ou notre lutte. Notre lutte est qu'on arrive à une planète 50-50. Devant l'égalité des chances, l'égalité d'opportunités, l'égalité des compétences, et on laisse la personne qui peut faire, puisse les faire. Donc c'est un peu ça. Donc si je dois revenir à ce que je disais tantôt, la femme doit travailler son côté de compétitivité. Parce que être en face des hommes, assumer les postes de responsabilité au même titre que les hommes, ça demande plus la compétence, la détermination et le courage. Donc si je vais un peu répondre à votre question, monsieur Udena.
Merci Rod Kakoubou, nous vous gardons dans ce débat. Isabelle Pendeza Bikai, coordonnatrice du collectif des associations féminines pour le développement CAFED. En sigle, nous vous avons déjà écouté, aussi bien introduction dans les présentations que dans les reportages que nous avons déjà diffusés à ce stade. Alors, vous conseillez à ce que le 8 mars soit placé dans ses vrais objectifs, celui de l'émulation, beaucoup plus que celui des festivités et des réjouissances. En fait, déjà, qu'est-ce qui vous a donné cette impression de festivité? Comment l'avez-vous évalué pour considérer que certaines femmes sont plus dans les festivités? Et avez-vous l'impression que depuis que vous mettez le doigt sur ce côté non festif, les gens vous écoutent?
Merci beaucoup pour la question. En fait, je voudrais d'abord féliciter les interventions de Madame Rose par rapport à la thématique. Et ce que je venais de dire tantôt, c'est par rapport à l'optique ou soit à la manière dont plusieurs femmes, voire même plusieurs hommes, pensent par rapport à la date de 8 mars. Et c'était pour nous, après une évaluation par rapport à ce que les gens ont comme conception par rapport à cette journée, par rapport
à... Est-ce que c'est les hommes qui induisent les femmes en erreur ou c'est les femmes elles-mêmes qui aiment les fêtes et forcent à ce que la journée qui apparemment leur est consacrée pour des réflexions et des réclamations devienne un moment de fête?
Non, c'est parallèle. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je ne dis pas que ce sont tous les hommes qui sont effectivement impliqués dans cette question. C'est simplement parce que beaucoup de femmes ont aujourd'hui cette capacité de comprendre qu'il y a un changement de mentalité par rapport à ce que dans les années passées, certaines femmes pensaient que le mois de mars, le 8 mars, c'était un moment de relax, un moment d'échange des cadeaux, un moment de pagne ou de fleurs.
Une espèce de Saint-Valentin bis.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et voilà, il y a aussi des hommes qui, chaque fois que nous approchons la commémoration du 8 mars, qui se donnent aussi le luxe de commencer à dire aux femmes, voilà, le 8 mars, c'est votre fête, c'est votre cérémonie, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Alors, ça nous a vraiment piqué de voir qu'il y a des personnes peut-être qui ne comprennent pas la vraie raison de commémorer la journée de 8 mars. Et c'est pourquoi nous avons essayé de parler de cette façon-là, pour faire comprendre aux gens que cette journée n'est pas une journée seulement de loisirs, bien que les loisirs n'est pas mal, le loisir n'est pas un péché, mais pendant ces moments, pendant ces temps, c'est un moment où on doit beaucoup plus évaluer les actions, les avancées, les défis, travailler sur les difficultés que rencontrent les femmes dans la lutte contre contre les inégalités de sexe et aussi pour la promotion de la femme.
Isabelle Pendeza, est-ce que pour l'Afrique, par exemple, le problème des revendications des rôles ou des places politiques que les femmes doivent occuper Est-ce que ce problème est bien posé? Nous sommes dans une société en Afrique, et la RDC est dans l'Afrique, où les mentalités, où la culture, où les traditions ont établi, voilà, c'est la culture, on peut la qualifier de positive ou pas de pas positive, mais l'Afrique a cette façon-là de s'avancer, de donner des rôles spécifiques aux femmes et de donner des rôles spécifiques aux hommes. Aujourd'hui, tout est focalisé, comme on entend dans beaucoup de discours, à ce que les femmes prennent de plus en plus des postes de responsabilité, qu'on les voit dans les actions en politique. Est-ce que cela correspond à la culture africaine et congolaise, et est-ce que ça peut marcher?
Oui, je dis que ça va marcher, et ça va marcher exactement. Pourquoi? Parce que on ne va pas mesurer une femme par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui. On va évaluer par rapport à la femme traditionnelle et à la femme aujourd'hui qui occupe les postes de prise de décision. Parce qu'auparavant, c'était une question des us et des coutumes, et aussi il y avait un problème de conception. Les gens pensaient que les femmes qui émergent dans la vie politique, c'était des femmes peut-être qui n'ont pas de valeurs africaines ou qui n'ont pas une bonne moralité, mais c'est faux. Aujourd'hui, on a dépassé ce niveau de compréhension, et les femmes sont à me dire, même les hommes responsables sont à me dire de dire aujourd'hui que non, il y a des avancées et il y a un changement de mentalité par rapport à ce qui était comme on pensait avant. Et moi, je pense que ces femmes elles-mêmes ont déjà compris le problème, et elles ont déjà compris qu'on n'est pas en conflit avec les hommes, mais on est dans ce qu'on appelle je suis égalitaire et complémentarité. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas construire un pays, on ne peut pas développer un pays juste simplement avec les hommes ou simplement avec les femmes, et qu'on doit être en mesure de développer notre propre pays, et pourquoi pas même le continent africain ensemble. C'est pourquoi je prône beaucoup plus la question de complémentarité. On se complète. Personne n'est supérieur à l'autre et personne n'est fort par rapport à l'autre. Et c'est ce que je voulais peut-être ajouter.
Mais madame Isabelle Pendeza, le discours officiel qui est dit aujourd'hui peut être vérifié à certaines proportions, mais est-ce que dans les familles africaines, dans les familles congolaises de 2022, y a-t-il encore discrimination qui ferait que des familles choisiraient ou donneraient plus d'opportunités à des garçons plutôt qu'à des filles? On a plutôt l'impression que depuis de nombreuses années, garçons comme filles, surtout dans les familles, ont les mêmes droits, ils vont à l'école sans regarder les quotas à donner. Et est-ce que cette question, à proprement parler, quand on regarde dans les réalités, on est encore dans l'inquiétude qui pouvait se poser il y a 40 ans, 50 ans?
Je dirais non. En fait, ce que je comprends et ce que tout le monde doit comprendre, c'est qu'il y a vraiment des améliorations. Bien sûr qu'il y a des améliorations, il y a toujours des défis auxquels les femmes font face, et voire même des jeunes filles. Mais moi, je pense que ce qui était il y a 10 ans, ce n'est pas la réalité de ce qui est maintenant pour cette période, parce qu'au moins aujourd'hui, les femmes elles-mêmes sont impliquées dans cette notion-là d'égalité des chances par rapport même aux enfants. Et qu'on sait aujourd'hui que tous les enfants par rapport à l'éducation sont les mêmes, sont égaux. On ne doit pas privilégier seulement un garçon au détriment de la fille, non. Mais je sais que dans certains milieux de notre province, même dans notre pays, il y a encore des défis par rapport à la mentalité des hommes, voire même de femmes, qui ne comprennent pas le vrai sens et l'importance de faire éduquer, de faire scolariser les deux enfants au même pied d'égalité. Et nous, en tant que femmes, en tant que de femmes activistes engagées dans la lutte contre les inégalités des sexes, on a encore un travail à faire, et nous devons tous nous mettre au travail et voir que peut-être les autres qui n'ont pas encore compris le sens de l'éducation de filles pourront le comprendre avec le temps. Mais on ne doit pas se limiter justement par là, on doit encore approfondir et élargir même les stratégies par rapport à la lutte et aussi à l'éducation de nos enfants, parce que si nous n'éduquons pas très bien nos enfants aujourd'hui, ça sera aussi une bombe à retardement dans les jours à venir.
Merci Isabelle Pendeza. Nous gardons aussi dans ce débat Léon Soukourou, chercheur et consultant en sociologie du genre. Aujourd'hui, quand vous regardez la problématique du 8 mars, de la Journée internationale de la femme, avez-vous l'impression qu'on a su s'adapter à l'évolution du temps et que les problèmes posés pour atteindre des objectifs d'égalité des chances hommes-femmes est toujours aujourd'hui bien posé ou plutôt biaisé?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question à me poser. Mais avant de parler sur cette question, laissez-moi saluer mes co-débattrices qui ont donné des interventions brillantes par rapport à la question du genre. Mais aussi, je voulais dire que la question du genre, c'est un problème permanent. Et puis, c'est une question transversale. Comme vous venez de le dire, il y a des avancées, mais partant du contexte socio-culturel de la République démocratique du Congo, il y a trois éléments ou quatre éléments qui nécessitent d'être brandis pour parler de cette problématique. Premièrement, d'abord, c'est la question de l'égalité de la femme par rapport à l'homme. Et ça, c'est un problème sérieux parce que nous sommes dans une société patrilinéaire où les hommes ont tendance à croire qu'ils sont supérieurs aux femmes. Et ça, c'est un problème permanent. En deuxième lieu, il y a un autre problème, c'est la conception de la femme au niveau sociétal. Et ça, nous parlons la question des modes de vie. Et quand nous parlons la question des modes de vie, nous voyons l'aspect des normes et valeurs socio-culturelles. Et là, nous revenons dans la question de la socialisation. Comment est-ce que les enfants ont été socialisés, un enfant, garçon et une fille? Vous trouverez qu'il y a une égalité dans la question de l'éducation. Et ça, c'est la transmission des valeurs entre l'enfant fille et l'enfant garçon qui continue jusqu'à ce que ces enfants grandissent. Et vous trouverez que le problème reste là. Et le troisième niveau, c'est la conception de la femme que je disais tantôt, que la femme a été considérée comme un être à protéger, un être inférieur, incompétente, une personne qui ne peut pas faire autre chose que l'homme peut faire. Et ça, c'est un problème que nous assistons aujourd'hui, bien qu'il y a ces combats de féministes ou ces combats des associations féministes.
Mais Léon Soukourou, qu'y a-t-il de mauvais à ce que dans une société, il y ait des médecins, des ingénieurs, mais qu'il y ait aussi des charpentiers, des jardiniers, les uns n'ayant pas moins de valeur que les autres? On a plutôt l'impression... et peut-être c'est l'impression que donneraient les résultats qui n'avancent pas très fort. On a plutôt l'impression que mécaniquement on veut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, alors qu'en société il doit y avoir distribution de rôles, et la distribution de rôles ne signifie pas forcément infériorisation des uns vis-à-vis des autres.
C'est ça le seul problème, parce que vous trouverez qu'il y a un problème de la socialisation. On montre chaque fois aux femmes, ou aussi que il y a un exemple que nous avons étudié à l'école primaire, que maman va au marché, maman va au champ, et que papa va au travail. Vous comprenez que c'est la socialisation. Et là, la fille a été amenée à étudier dans les sciences sociales, l'éducation, la santé, et que les hommes doivent étudier mécanique, les hommes doivent faire l'armée, les hommes doivent faire les études en bâtiment. Vous trouverez qu'on a démystifié les enseignements chez les filles, que les hommes doivent faire les sciences exactes. Et voilà que nous sommes tombés dans cette situation où les filles ou les femmes ne sont pas retrouvées dans des sciences exactes. Et cela est dit à la socialisation. Comme je venais de le dire, c'est notre problème. Et notre élément, c'est la question des stéréotypes et des préjugés. On voyait la femme ou la fille comme étant incapable. Ce sont des images négatives qu'on collait à la fille ou à la femme en démontrant que c'est une personne qui ne doit pas avancer dans les enseignements, dans les études. Et cela, c'était dit par rapport au mariage. Et comme vous voyez dans nos sociétés traditionnelles, que le mariage c'est un luxe, et que la femme n'a pas le droit de refuser de se marier, que la famille a besoin de se racheter, de quitter dans la pauvreté, et vous voyez que c'est la fille qui est appelée à se marier et que les garçons doivent continuer ses études. Voilà les effets négatifs que nous vivons actuellement. Les filles se trouvent maintenant moins nombreuses dans le monde d'emploi que les hommes sont très nombreux.
Mais Léon Choukour, est-ce que c'est cette interrogation, je pose la même question aux autres d'une formulation différente, mais est-ce que le 8 mars et la revendication des droits des femmes ne devrait pas plutôt mettre l'accent sur la parfaite égalité, la parfaite accession aux mêmes possibilités et au même milieu de formation, plutôt que de se focaliser sur l'accession à l'égalité des postes politiques. On insiste beaucoup sur les postes politiques, beaucoup moins même que l'accession aux mêmes égalités à la capacité de leadership qui consiste à avoir les compétences déjà de mener sa vie, d'avoir la compréhension du monde dans lequel on est, et un peu plus tard, de pouvoir influencer dans un secteur comme dans un autre, dans des secteurs de sciences, de technologie, de découvertes, de commerce, et même plus tard, dans le secteur très médiatisé de la politique.
Oui, vu le contexte selon lequel nous évoluons et que les filles se trouvent en retard, je vous ai dit bien en retard, par rapport dans d'autres domaines, il serait mieux que l'État donne des bourses, favorise certaines sciences, comme vous venez de le dire, des technologies. Et on dit, une fille qui aurait eu 70%, 75% pourrait accéder dans telle faculté de sciences, les sciences technologiques. Vous trouverez qu'il y a des avantages, et cela pousserait aux filles d'accéder ou d'aller plus dans ces domaines. Malheureusement, nous ne faisons pas l'étude de cause à effet. Nous nous attaquons aux effets et nous laissons à faire une étude minutieuse sur les causes. Donc, avant les postes de décision, si on n'a pas de personnes ou de femmes compétentes à ces postes, ça ne gagnerait à rien. Mais si on arrivait à amener ou à favoriser les filles à étudier dans des domaines purement techniques ou de sciences exactes, en accordant des avantages, des privilèges à ces sciences, cela favoriserait à ces femmes ou à ces filles d'étudier plus dans ces domaines. Malheureusement, le contexte que nous évoluons, l'État congolais, malheureusement, n'a pas pu donner ces bourses aux femmes ou des moyens de privilèges, et que les femmes cherchent à attaquer, ou les mouvements féministes cherchent à attaquer les effets au lieu d'attaquer les causes. Un autre élément important est qu'il faut tenir compte de la socialisation, il faut tenir compte des stéréotypes, il faut tenir compte de cette construction des rôles. Parce que, souvenez-vous que dans nos sociétés, le statut social dépend de la conception de la société aussi. Quand une femme a un poste élevé, la société conçoit mal ce poste. Et ça, c'est un problème, parce que nous sommes dans une société où une société en pleine mutation et que le poids culturel continue à peser sur la population ou sur la société. Et ça, c'est un problème et c'est un danger par rapport à la journée de 8 mars. En fait, c'est une journée de réflexion, c'est une journée de méditation où le gouvernement, les autorités politico-administratives ou les organisations féminines des droits des femmes devraient se mettre ensemble pour chercher les solutions, conscientiser les filles et les femmes à accéder, à quitter cette théorie que nous appelons la théorie des victimisations. Ça, c'est une mauvaise théorie que moi, je n'aime pas par rapport aux organisations féminines. Quand on victimise la femme ou la fille, et pourtant, ce sont les personnes qui ont des capacités, qui ont des potentialités, parce que les femmes se sont lancées surtout dans le monde ou dans le secteur informel, plutôt que de se lancer dans le secteur formel ou dans l'administration publique.
Merci Léon Choukourou. Place à présent aux auditeurs qui ont aussi leur mot à dire dans cette émission. Rode Kakubu Mawanga, nous allons vous inviter à réagir à cette réflexion de cet auditeur de Kananga.
Martinez Kunyunga depuis la ville de Kananga. Aujourd'hui, le monde en amont et l'air de ça en aval célèbre la journée des droits de la femme. Bien plus, les bilans de la lutte pour les droits de la femme a connu une avancée significative, puisqu'elles occupent les postes qu'occupaient les hommes auparavant. Mais beaucoup reste à faire.
Rode Kakubu.
Oui, présente, M. Donat. Sa préoccupation de savoir qu'est-ce qu'il reste à faire, parce qu'il a dit qu'aujourd'hui, les femmes occupent les postes de responsabilité qu'elles n'occupaient pas avant et qu'il y a beaucoup d'avancées significatives et d'une part et d'autre part, il y a beaucoup à faire. Oui, bien évidemment, il y a beaucoup à faire parce que, comme je venais de le dire tantôt, que nous sommes en train de chercher à atteindre la planète 50-50. Aujourd'hui, nous avons 30%, le quota de 30% de participation de la femme aux instances des prises de décision, mais cela n'est pas suffisant. C'est une avancée significative, voilà. Mais il nous reste encore à travailler pour que nous puissions mettre en avant-plan plus la compétence qu'un quota. Parce que je l'ai souligné tout au début de mon intervention, et si nous restons sur les quotas, on risque de se retrouver un jour, on a 50% des femmes qui peuvent occuper les postes de prise de responsabilité, mais comme on est soumis à une limite de 30% des femmes, on va faire tomber les 20% des femmes qui sont compétentes, alors qu'il faudrait aligner certains hommes. Alors, je pense, à mon avis, qu'avec les actions que le ministère des gens, familles et enfants a déjà menées sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la ministre des gens, familles et enfants, son Excellence Madame la ministre Gisèle Halimi-Saliba, nous avons déjà beaucoup travaillé, et ce gouvernement de Wayo a la participation politique à tous les niveaux, la participation des femmes aux instances de prise de décision à 30%. Mais il reste beaucoup à faire parce que nous voulons atteindre, comme je disais, la planète 50-50, où nous avons 50% des femmes qui occupent les postes de prise de responsabilité, 50% des hommes qui occupent les postes de prise de décision, et à cela, nous allons atteindre la planète 50-50. Pourquoi penser à l'au-delà? C'est pourquoi j'ai commencé par dire on doit passer l'étape de quota pour aller aux compétences, parce qu'il n'est pas impossible de trouver 50% des femmes qui occupent le poste de prise de responsabilité et 30 hommes qui l'occupent. Ce n'est pas mal, l'inverse. Question juste d'accepter la compétence de la femme. C'est pourquoi les ministères de genre, famille et enfants travaillent pour la promotion des droits des femmes. La femme peut aller en avant, au-delà d'abord de la protection de ce droit que nous avons déjà acquis pratiquement à 50%, nous continuons à travailler sur la promotion de la femme, la promotion des compétences de la femme, la promotion des initiatives de la femme, la promotion de la capacité de la femme à booster l'économie nationale. Donc ce sont les choses que nous travaillons dessus. Je pense qu'avec l'aide de notre gouvernement au travers du ministère des gens, familles et enfants, nous allons arriver à ces idéaux. Merci.
Merci Rode Kakoubou, cette question je l'ai posée et je repose encore pour que nos auditeurs comprennent bien que cette question a fait débat et a trouvé ses clarifications. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, il est encore question de parler des objectifs de quotas à atteindre? Je donne un exemple. Notre pays, la RDC, était très bien coté hein, dans les années d'après indépendance par rapport à aujourd'hui. Mais pourtant, à cette époque, il n'y avait presque pas de femmes dans les sphères politiques, dans les institutions. Est-ce que on a la garantie qu'avec 50% et même voire plus hein, des femmes dans des postes politiques, notre pays sera beaucoup mieux et que notre société d'Africains sera beaucoup meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui?
C'est ce que je disais tantôt là, qu'on n'est plus au stade de quota. Parce que si vous voyez bien, vous venez de le souligner, que notre pays a fait des avancées très significatives en termes de participation de la femme aux instances de prise de décision. Aujourd'hui, vous savez avec moi, s'il y a des gens qui ne savent pas, j'informe que le président de la République, notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a été plébiscité par ce père comme de l'Union africaine, comme champion genre. Vous imaginez que quand le président des autres pays africains reconnaît qu'un président d'un pays est champion genre, on suppose qu'il y a une évaluation qui a été faite. On a compris que la RDC est parmi les pays qui sont en train de promouvoir les droits des femmes, qui est en train de promouvoir les droits des femmes, qui est en train de protéger les droits des femmes et au-delà de ça, assurer la bonne participation de la femme aux instances de prise de décision. Donc, pour revenir à votre question, je pense qu'avec la lue où vont les choses, nous sommes en train de tendre vers un schéma où on ne parlera plus de quotas. Parce que le quota, c'est une autre forme de discrimination. Parce qu'on est en train de continuer à limiter la femme. On a ouvert la barrière, mais il y a une limite qui nous attend devant. Nous voulons briser cette limite-là, dire qu'on mette la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Si c'est une femme qui est capable d'être le président de la République, allons-y, accompagnons cette femme. Si c'est un homme qui est capable, allons-y, si c'est une femme qui est capable d'être premier ministre, ministre, accompagnons. Donc, on veut plus mettre en avant plan la compétitivité sur terrain et les compétences. On veut plus
si on travaille sur la compétence, on va découvrir la personne de la femme. On va comprendre que la femme a beaucoup de capacités, elle a beaucoup de potentialités, mais elle est toujours limitée. Donc, à mon avis, si je dois émettre un avis pour cela, on doit améliorer la loi sur la parité et les droits des femmes en allant au-delà, en ouvrant la brèche pour dire on ne veut plus parler des quotas, mais on veut laisser la compétence jouer. À cela, il y a un travail en amont qui doit se faire, laisser l'égalité des chances, envoyer tous les enfants à l'école, laisser les enfants bénéficier de même qualité d'éducation, de même qualité d'instruction et de formation. À cela, on va espérer avoir une nation où toutes les couches de la population, tous les sexes confondus, sont compétents à assumer un poste de responsabilité.
Merci, Rose Kakoubou. Isabelle Pendeza Bikaï, vous allez nous dire si vous partagez l'analyse et l'avis donné tout à l'heure par Rose Kakoubou, mais au même moment aussi, vous allez jeter un coup d'œil à ce commentaire qui nous vient de Kinshasa.
Alphonse Timothée Tiofou, depuis la ville-province de Kinshasa. Je souhaite une excellente fête à nos mamans. Le bilan de la journée de 8 mars en RDC est très négatif, car on voit surtout la mobilité de la femme congolaise que le 8 mars et après la radio. Nos mamans revendiquent seulement les quotas politiques, mais dans d'autres secteurs de la vie, on ne sent pas vraiment le leadership féminin. La femme doit prendre à l'idée à se battre au lieu de se plaindre. On le voit souvent dans les milieux urbains. Cependant, dans les milieux ruraux, il n'y a même pas la sensibilisation. Les autres femmes ne connaissent même pas ce qui signifie le 8 mars. Pour ce faire, les réseaux de femmes devraient évaluer si les objectifs intérieurs fixés sont atteints. Si pas, pourquoi? Et d'aller chaque année de thème en thème. Merci.
Isabelle Pendeza, je crois qu'on a dit plus ou moins la même chose, mais pour répondre directement à cet auditeur, votre réponse.
Oh, merci beaucoup. Avant de donner ma réponse par rapport à notre intervenant, je voulais d'abord signaler que les femmes n'écrivent pas à la victimisation comme l'a dit notre confrère. C'est faux, parce que les femmes comprennent qu'elles sont réellement... Il y a des femmes qui sont beaucoup plus victimes, mais beaucoup aussi actrices dans tout ce qui est processus de paix et de développement dans notre pays. C'est ce que je voulais d'abord commencer par dire. Mais pour la réaction aussi de notre auditeur, c'est que quand il nous dit que beaucoup de femmes ne connaissent pas les sens dans les territoires, dans des villages, dans le milieu rural, ne comprennent pas ou ne maîtrisent pas les sens du 8 mars, il peut avoir raison, mais aussi ça dépend de quelle province. Parce que au moins dans la province du Nord Kivu, dans laquelle moi je suis, il y a eu beaucoup de séances de capacitation, il y a eu beaucoup des ateliers de formation par rapport au rôle de la femme, que ce soit la femme au niveau rural, que ce soit la femme au niveau urbain. Et moi, je pense que nous devons vraiment aller encore plus loin pour arriver à avoir une même compréhension par rapport à la journée du 8 mars, pas seulement à la journée du 8 mars, mais aussi au mois de mars, et tout ce que nous pouvons faire. Vous savez que le pays attend de nous beaucoup de choses. Nous, on ne peut pas seulement participer au, comme on dit, la participation politique des femmes. Non, ce n'est pas ça la participation dont les femmes parlent. Nous devons avoir l'idée de la participation pour dire que les femmes doivent participer à tout le processus de paix et de développement. Ça veut dire que ce n'est pas seulement au niveau politique, ça peut être au niveau de l'entrepreneuriat, ça peut être au niveau agricole, ça doit être au niveau éducation, ça doit être, c'est sur tous les niveaux. Et donc ce n'est pas seulement la participation au niveau politique. Mais aussi, c'est vraiment un ouf de soulagement, surtout avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est qu'il y a des avancées par rapport à ce qu'on est en train de décrire longtemps. Les hommes doivent comprendre que nous sommes des alliés et eux, ils sont nos alliés. Et on doit aller dans la même direction et ne pas croire que ce que les femmes sont en train de revendiquer, c'est parce qu'elles ne sont pas satisfaites. Non, l'homme lui-même n'a jamais été satisfait. Mais on doit voir ce qui nous garantit même la loi ou voire même la constitution par rapport à la participation, par rapport à l'égalité, par rapport à la parité.
Mais Isabelle Pendeza,
nous devons tous nous attendre, nous devons tous savoir que plusieurs obstacles sont là par rapport même à à l'indépendance ou voire même à, par rapport à l'autonomisation économique des femmes. Et on ne peut pas les nier. Mais moi, je pense qu'on doit, éviter de chaque fois dire que quand les femmes parlent, elles crient à la victime,
à la victimisation.
À la victime. Mmh. Non, on est des victimes, bien sûr, mais on est aussi des actrices dans la lutte.
Merci Isabelle Pendeza. Léon Choukourou, vous allez réagir peut-être à ce qui a été dit par vos prédécesseurs, mais au même moment, nous allons vous inviter à bien tendre l'oreille pour analyser et réagir à cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Patrice Mundera Kolimouchi, je vous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Je salue la célébration de cette journée du 8 mars. Néanmoins, je pense que le thème retenu pour cette année, la RDC devrait l'adapter au contexte actuel de notre pays. Car il est difficile que la femme congolaise devienne actrice de lutte contre les changements climatiques et les catastrophes naturelles au moment où elle est confrontée à plusieurs défis socio-économiques, dont l'insécurité conduisant aux violences sexuelles. S'agissant des droits des femmes et l'égalité des sexes, je pense que cela ne devrait pas être donné comme un cadeau aux femmes, mais elles doivent plutôt l'arracher par leurs propres compétences et atouts pour l'émergence de notre pays.
Merci beaucoup à cet auditeur. Léon Choukourou, vous allez réagir à l'ensemble des choses. Justement, puisque cet auditeur évoque notamment les thèmes, nous insistions et nous posions la question sur la nécessité d'adapter les objectifs de la lutte, hein, parce que le monde a évolué depuis ces moments-là. L'autre question, c'est lorsque chaque fois on est obligé de mettre deux thèmes à poursuivre, est-ce que ça n'ajoute pas déjà à la nécessité d'adapter une confusion supplémentaire? On a à chaque journée de la femme deux thèmes, un thème international et un thème national, qui, dans leur formulation, sont apparemment opposés ou conflictuels.
Merci beaucoup pour la question de M. Koulimouchi Patrick. Mais dans ce sujet, je voulais d'abord soulever que l'autonomisation de la femme, c'est une pleine participation à la vie sociale, politique, économique et même environnementale. Donc, le contexte actuel, ça n'a pas échappé à la question du genre. Donc, la femme peut intervenir aussi comme un homme dans la question de la protection de l'environnement. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Il a soulevé une question pertinente, c'est que l'insécurité permanente, il y a la question des violences sexuelles ou de viols, question des violences basées sur le genre. Il y a question, les femmes ont été abandonnées, et ça c'est réel. Et là, nous pouvons faire appel à l'État congolais de voir comment adapter cette cérémonie, cette journée de réflexion par rapport aux problèmes que traversent nos mamans, nos femmes, nos sœurs, nos filles en RDC et à l'est de la RDC, parce que le contexte à l'est de la RDC reste à désirer, monsieur le journaliste. Comme vous le verrez, à l'est de la République démocratique du Congo, comme vous l'avez souligné tantôt à Ituri, vous venez à Fizi, Mwenga, ou à Moyen Plateau, vous verrez que les femmes vivent dans des conditions qui sont inhumaines. Et donc, célébrer cette journée par rapport à la question de protection de l'environnement, c'est bon, mais d'abord, par rapport, il fallait aussi donner l'aspect économique, toucher l'aspect économique. La femme reste oubliée. Ça, c'est l'aspect économique. L'aspect politique, la femme reste oubliée. Les femmes ne dirigent pas, ne donnent pas, n'acceptent pas au poste de décision. Et ce sont les problèmes que nous vivons du jour au lendemain.
Merci, on a travaillé sur ces questions tout au long de nos débats. Merci à Rod Takubu Mawanga pour sa participation, Isabelle Pendeza Bikai et Léon Choukourou qui a pris la parole le dernier. Polydor Basunga, Kéline Kouté, Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.